L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le double plaisir de recevoir Marie-Claude.
C'est gentil, Jérémy.
Que je vais interviewer pour les auditeurs.
Voilà, aujourd'hui, je ne lui casserai pas les pieds avec le...
Voilà, comme ça, c'est fait.
J'essaierai d'être gentille, d'être sage.
Alors, Marie-Claude, vous la connaissez certainement, mais on va essayer de la découvrir sous un autre angle, pour ceux qui ne savent pas tout. Et moi, je vais demander à Marie-Claude de se présenter brièvement, et puis après, on va aborder l'interview elle-même.
Bon, brièvement, voilà, je suis psychologue clinicienne. Ça fait très longtemps que j'ai créé cette association qui s'appelle Maya, à la suite des événements dont nous parlerons, de mon contact, de ma relation avec le Burkina Faso, puisque je suis là essentiellement plus pour le Burkina que pour moi. Et voilà, et donc c'est tout. Je suis une mère de famille, j'ai beaucoup voyagé. Et à un moment, mon trajet est passé par l'Afrique d'une façon... Je savais qu'un jour ou l'autre, j'étais sûre qu'un jour ou l'autre, j'y partirai. Et voilà, j'y suis partie d'une façon dont je vous entretiendrai un petit peu.
Alors, merci de planter le décor. Moi, ce qui m'intéresse, derrière votre nom, Marie-Claude, il y a quelque chose qui s'appelle Sia.
Mmh. Ah oui. Justement, alors c'est quelque chose qui est très important pour moi, puisque déjà, ce pays, j'avais eu des contacts, peut-être je vous en parlerai tout à l'heure aussi, avec ce pays par rapport à une jeune fille on avait monté une opération pour la faire opérer ici, etc. Elle était de Bobo-Dioulasso, qui est ma ville maintenant de rattachement, qui est ma ville de cœur. J'ai créé cette association qui s'appelle Maya, et j'ai commencé à y aller régulièrement, s'occuper essentiellement de femmes, d'enfants et surtout de filles aussi pour les aider à se scolariser. Et très vite, on a eu un partenariat avec un grand lycée dans lequel d'ailleurs, je viens d'avoir des nouvelles d'ailleurs hier, on a participé, on a aidé à construire des ateliers d'apprentissage et on les avait équipés, même on avait envoyé un conteneur, des machines à coudre, etc. Et là, ils en sont à la 14e promotion de jeunes filles qui ne pouvant pas aller jusqu'au bout de leurs études, font des études de couturière et s'installent après avec les aides, etc., etc. Et donc dans ce lycée, il y avait un proviseur qui était venu d'ailleurs ici dans le cadre d'un jumelage avec le lycée Jean Monnet. Et un jour, comme ça faisait deux ou trois fois que j'allais là-bas et puis que j'étais très proche des gens et des jeunes, ils ont organisé une cérémonie qui m'a beaucoup touchée, où ils m'ont baptisé, traditionnel, hein, avec tout ce qu'il faut, avec vraiment tous les instruments, l'eau de l'étranger, etc. Et ils m'ont appelé Sia. Et Sia, en bonne française, je pense, un peu quand même rationnelle, je suis vite allée à la mairie centrale de Bobo me renseigner sur l'origine de ce nom, quand même. Et en fait, c'était le nom d'un site sur la grande surface de Bobo-Dioulasso. À ce moment-là, il y avait peu de bâtiments. Et il y avait un endroit où il y avait une dolotière. Le dolo, c'est la bière 2000, là-bas. Donc, il y avait une dolotière qui s'appelait Sia. Et donc, comme c'est très, très, très paysan, très agricole, les paysans, quand ils voulaient se reposer un peu, ils disaient « on va à Sia ». D'accord. Et donc, Sia, quand je dis à un Burkinabé que je m'appelle Sia, il sait tout de suite que je suis de Bobo. D'accord. Et bien sûr, ce nom, il m'a tellement marqué, on m'a tellement appelé de ce nom-là, que même depuis quelques années, j'ai dû le mettre sur ma boîte aux lettres. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent à Marie-Claude Sia. Voilà. D'accord. Donc, ça me colle à la peau.
Absolument. Voilà. Bon, mais c'est bien. Alors, avant le Burkina, est-ce que vous avez eu... une attirance pour un pays autre que le Burkina?
Oui, alors je suis très attirée par le Moyen-Orient, par l'Amérique latine. J'aime beaucoup les voyages, le Moyen-Orient. Je connais bien la Turquie, entre autres. Voilà, puis j'ai eu la chance d'avoir des acquaintances avec l'Iran. J'ai une famille iranienne, je dirais tout ça. D'accord. Et puis l'Amérique latine, mais là, je n'y suis jamais allée en Amérique latine parce que je suis hispanophone, j'ai étudié la conquiste, enfin tout ça. Et par contre, justement, concernant le continent africain, ce qui était extraordinaire, c'est que je ne sais pas comment dire, j'étais pas impatiente d'y aller parce que je savais qu'un jour, mais pas me mènerait là-bas. Je ne sais pas pourquoi dire.
Vous étiez prédestiné.
Oui, preuve. D'ailleurs, quand j'ai posé mon pied, quand mon sol a foulé la latérite, à l'époque c'était de la latérite, sur le tarmac de l'aéroport, j'ai eu la sensation que je rentrais à la maison.
D'accord.
Voilà.
Bon, alors vous y êtes allé, vous avez été baptisé, c'est une forme d'adoption acceptée par...
Oui, tout à fait.
Baptême coutumé, on va dire.
Oui.
Et depuis que vous y êtes, comment ça se passe dans cette famille burkinabé là-bas?
Eh bien, déjà, bon, moi je suis quelqu'un, je bouge beaucoup, hein, même dans ma propre famille, il y a beaucoup de mouvements, il y a un peu tous les continents qui se croisent. Donc je suis allée, bon là j'ai vraiment une famille maintenant, plus de cœur, encore plus, mais j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup vécu chez les gens, chez l'habitant, parce que pour moi le voyage c'est vivre chez l'habitant, c'est pas être à l'hôtel, voilà, etc. Et entre autres, à l'époque c'était une famille de Peuls, c'était extraordinaire, je me régalais parce que c'était les tantes d'une amie à moi, etc. Et donc j'ai beaucoup bougé, tourné dans les familles, ce qui fait que j'ai eu à recevoir des informations, à comprendre un petit peu le mode de vie, des choses qu'on ne m'explique pas, parce que j'ai compris, on n'a pas besoin de me dire. Si on fait un sacrifice par exemple, je sais, je comprends les signes, etc. Et donc j'ai vécu pas mal dans les familles, hébergé un petit peu à droite à gauche, avec vraiment un grand bonheur, voilà.
D'accord. Bon, vous y êtes désormais intégré, vous êtes une bobolaise, comme vous dites, vous avez des liens très particuliers avec le Burkina. Si on vous demandait de nous parler du Burkina, vous diriez quoi?
Alors, si je parlais du Burkina, je dis toujours que le plus beau paysage du Burkina, ce sont ses habitants. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays de tourisme, vraiment, même s'il y a des régions intéressantes. Hein. Bon, le Nord, je n'ai pas fait le Nord, parce que je n'ai pas le temps quand je vais là-bas, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais on prend le Sud, la région de Banfoura, tout ça, les cascades. Il y a vraiment le lac aux hippopotames. Enfin, après, il y a des endroits assez typiques et assez... Mais je dirais que vraiment, et je pense qu'il y avait actuellement, un peu moins maintenant, parce que la politique qui chasse un petit peu les Français, ça rebute un peu les gens. Mais c'est un pays où il y a énormément de partenariats, hein, qui est un pays très, entre autres, au niveau agricole. Nous, on a un grand centre ici, Agropolis, et on sait bien que voilà, il y a beaucoup de partenariats. Et je dirais que voilà, si je dois décrire le pays, je dirais que c'est un pays qui a une tradition d'accueil autour d'une ethnie dominante qui est celle des Mossi, mais en fait après où tout le monde a sa place. Et quand on arrive là-bas, ce qu'on ressent, c'est cette bienveillance et cette bienveillance aussi ici aussi interreligieuse. Alors à l'époque quand j'y suis allée, c'était quand même en 95, c'était peut-être pas aussi pointu, aussi à vif que maintenant, mais quand même voilà, que par exemple pour Noël, les habitants, les gens qui sont les chrétiens, ils font une petite crèche qu'ils mettent dans la rue, que quand c'est une fête religieuse, et ben, ce soit les musulmans, ils viennent apporter à manger des plats à leurs amis chrétiens, que les à l'inverse, qu'ils peuvent éventuellement même aller à un culte religieux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, j'avais trouvé ça fascinant, et je trouve qu'effectivement, dans ce pays, ce qui est très très important, c'est cette tradition d'accueil et cette ouverture à l'autre.
D'accord. Voilà. C'est bien. Alors ensuite, après avoir dit des trois mots sur le Bobo, qui est votre base arrière désormais.
Ah oui, c'est ma base, c'est ma vie. Ouais.
Avec votre association, vous avez parlé de ça tout début. Qu'est-ce que vous continuez à œuvrer là-bas?
Tout à fait, tout à fait. Donc cette association, elle est née en 96. Donc ça fait 28 ans.
28 ans, d'accord.
Et donc en fait, je l'ai créé parce que quand je suis allé là-bas pour la première fois, je suis resté 3 semaines. Mais c'est vrai qu'en 3 semaines, j'avais vu quand même plein de choses. J'avais compris plein de choses et j'avais rencontré une Aminata Diallo, donc qui est devenue une amie, qui était professeure de philo au grand lycée de Bobo et qui avait créé une association justement pour essayer de favoriser la scolarisation des filles, parce que c'est dans tous ces pays, c'est les filles qui sont déscolarisées et là elles ont le droit. En plus, il y a des pays maintenant où elles n'ont même plus le droit. Mais voilà, et donc elle a créé une association et j'avais trouvé ça vraiment super. Et d'ailleurs, c'est aussi avec elle, avec sa complicité, que nous avons créé ces ateliers de couture qui continuent à fonctionner, justement, pour permettre aux filles de ne pas partir sans rien, même si elles ont réussi une scolarité jusqu'au seconde ou première, etc. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, j'avais visité beaucoup de dispensaires, j'avais compris beaucoup de choses. J'étais allée dans un dispensaire où j'avais apporté des médicaments et puis ça ne m'a pas plu. Pourtant, c'était quelque chose d'officiel. Là, ça ne m'a pas plu la façon dont c'était géré. Donc finalement, je l'ai redonné dans un dispensaire qui était super bien géré de façon très rigoureuse. Et j'avais vu vraiment les besoins essentiels qui sont comme dans tous les pays qui veulent se développer et qui ont du mal, la santé, l'éducation, la scolarisation, etc., etc. Et donc j'ai créé cette association Maya qui est, alors d'abord avec une éthique, c'est-à-dire j'avais vu des choses là-bas qui ne m'avaient pas plu, de la part des Blancs, pour ne pas les nommer, mais quand même si, parce qu'on est Blanc, donc on peut le dire aussi. Hein. Et donc j'ai créé une charte qui est à l'Assemblée Générale Constitutive, c'est-à-dire on ne se substitue à personne et à rien. Par contre, on peut partir des projets proposés par nos partenaires là-bas, et à ce moment-là, on acquiesce, on n'acquiesce pas, on est d'accord, etc. Et on crée un partenariat en sachant que le côté financier, c'est plutôt nous qui l'apportons, mais qu'après, toute la main-d'œuvre et tout, là-bas, c'est là-bas que ça se fait. Voilà. Et donc, cette association, elle existe depuis le temps, et ça doit être pas toujours aussi courant parce que je rencontre plein de gens que j'ai pas vus depuis des années qui me disent: ah, mais t'as encore ton association, ah, mais Maya, ça existe encore, ah, mais comment ça se fait, mais comment tu as fait, etc., etc. Ben, j'ai des partenaires là-bas qui tiennent la route. Voilà.
Bon, là, ça fait un quart d'heure qu'on est en émission. Oui. On va faire une pause musicale.
Oui, c'est bien de me rappeler
et
le temps.
et puis on va revenir.
Alors, donc, le
premier titre, c'est quoi?
Le premier titre, c'est Dien Wolo Wusso. Donc, c'est un hymne à la femme de Victor Démé, qui malheureusement nous a quittés très vite alors qu'il commençait à faire une super carrière internationale. Donc, voilà, Wusso, la femme.
Alors, nous voilà à nouveau dans le studio de FM+, avec Marie-Claude, qui est en train de nous parler du Burkina, de son association. Dans la deuxième partie de l'émission, Marie-Claude va nous dire un peu ce qu'elle a vécu là-bas, au Burkina, comment, en tant que citoyenne désormais bobolaise, puisque ça s'appelle SIA, comment elle a vécu tous les événements qui ont émaillé l'histoire récente du Burkina.
Oui, alors, en fait, quand je suis partie là-bas, je parlais vraiment de cette culture d'accueil, de cette richesse. Bon, il y a quand même un homme qui est passé, qui a laissé une trace indélébile dans l'Afrique en général, d'ailleurs, qui s'appelle Thomas Sankara, et qui avait rebaptisé son pays. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait rebaptisé, qui avait enlevé le nom que les colons avaient donné. Et entre autres, ça veut dire le pays de l'homme intègre. Et c'est vrai qu'il y a quand même une tradition d'intégrité, même si par ailleurs... C'est un peu comme dans tous les pays d'Afrique et puis même tous les pays, on va dire. Voilà. Et donc, cet homme-là avait été assassiné. Et c'est vrai que ça a été une grande plaie pour le pays parce qu'il commençait à relancer vraiment des choses. Moi, j'ai connu des amis. Par exemple, j'ai une amie qui est handicapée physique, qui est polio, qui m'avait dit, par exemple, si moi, elle est d'un milieu très, très pauvre. Je connais la cour familiale à Ouaga. C'est vraiment, ça, c'est très pauvre. Et tout en étant aussi polio, elle me disait, moi, elle était comptable, elle me dit, moi, si j'ai fait des études, c'est grâce à Thomas Sankara, parce qu'il avait commencé à rendre l'école gratuite, etc., pour tous les enfants. Il y avait beaucoup de choses, il commençait à y avoir l'autosuffisance alimentaire, enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et puis cet assassinat a été quand même une plaie ouverte dans le pays. Mais au début, j'ai pas trop senti, je ne l'ai pas vraiment senti comme ça, même si je savais, mais les choses ne se disaient pas trop. Puis il y avait du silence un petit peu, il y avait un peu la peur, j'en sais rien, et puis la sidération aussi. Voilà. Et donc, il avait été assassiné en 93
7.
7. Ah, pardon, excuse-moi.
87.
87, pardon.
Octobre 87.
Oui, octobre 87. Voilà. Donc, c'était relativement récent, ça faisait 7 ans. Et voilà. Bon, et c'est un pays qui se reconstruisait comme il pouvait, etc., etc. Et donc, moi, j'ai fait un peu la découverte de tout ça, y compris à ce moment-là. Même, j'avais visité même l'école normale de Ouagadougou, qui était super, qui formait des enseignants, etc. Et donc, ça, c'était en 1995, fin 1995. En 1996, donc, je crée mon association et je reviens régulièrement au pays, travailler avec nos partenaires, voir un petit peu où ça en est, apporter ma petite contribution, témoigner, créer du lien entre, comme c'est important, entre la France et le Burkina, entre nous, Français, et là-bas, les Burkinabés, qui nous considèrent d'ailleurs comme des amis, qui continuent d'ailleurs à nous envoyer des messages d'amitié, etc., etc. Et les choses passaient comme ça, c'est-à-dire on développait nos actions avec les filles, et puis après, donc, on a créé... J'ai un petit peu participé à l'élaboration, la réflexion de l'association Espoir pour Demain, qui est une association qui a été une des premières grandes associations prenant en charge les femmes et les enfants victimes du sida. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il commençait à y avoir des traitements qui étaient très très chers. Très cher, et en plus qui était destiné essentiellement aux hommes. Il n'y en avait pas pour les femmes, très peu, et pas pour les enfants.
C'est indifférent le traitement entre hommes et femmes qui ont le sida ?
Non, c'est parce que c'était comme ça. C'était en priorité, on traitait les hommes.
Ah bon, pourquoi ?
Il fallait demander un peu la santé là-bas. Ouais. C'est vrai que c'était assez révoltant. Et même actuellement, Christine Cafando, la présidente d'AED, elle se bat encore pour les enfants. Elle fait des plaidoyers encore au niveau international et tout pour la prise en charge des enfants, parce que c'est pas encore aussi bien que ça. Donc voilà, et nous participions. Alors nous avions construit ces ateliers à l'époque, et puis ensuite nous avons aidé beaucoup aussi tout ce que nous pouvions. On fait un système de parrainage également. Pour aider la scolarisation et surtout la santé et l'alimentation des enfants, puisque c'est très important. Et donc, nous avons continué à voguer comme ça pendant quelques années. Alors, ce que je voulais en parler, Jérémy, je t'en ai dit deux mots tout à l'heure, c'est qu'en 1998, Décembre 98. J'allais en général au mois de décembre. Je pensais les fêtes là-bas. D'ailleurs, l'an 2000, ça m'a saoulé ici. Les supermarchés, il y avait trop de choses. Donc, je suis allée traverser l'an 2000 au Burkina. Et en 1998, en décembre, juste deux jours avant de partir, il y avait un... Alors, il faut savoir que normalement, la presse au Burkina, Burkina Faso est une presse de grande qualité. Il y a vraiment des grandes plumes, etc. Et il y avait une grande plume qui s'appelait Norbert Zongo, et qui à ce moment-là était en train de faire des enquêtes sur une situation indélicate qui mêlait surtout le petit frère du chef de l'État, etc. Et deux jours avant de partir, j'étais chez un ami, et on parlait de tout ça, et puis cet ami dit « Oh là là, j'espère qu'ils ne vont pas l'assassiner ». Et moi je réponds « Non, non, ils ne vont pas oser, c'est quand même une trop grande plume, il est trop connu, etc. » Et en 98, le 13 décembre 1998, au moment où mon avion atterrissait, Norbert Zongo était tué et brûlé vif dans sa voiture avec son chauffeur, son frère et un ami. Voilà. Donc ça a été quelque chose de terrible.
C'est comme traumatisant pour...
Ah oui, ça a été terrible. D'ailleurs, les amis m'avaient... J'allais dans un petit hôtel qui était un peu comme chez moi. Dans la soirée, tout à coup, ils arrivent et me disent « Marie-Claude, il ne faut pas bouger, on viendra te chercher demain. Surtout, ne bouge pas. » Parce qu'il y a eu des émeutes dans tout le pays, mais essentiellement aussi à Ouaga. Et ça a été assez terrible. Ça a été vraiment un traumatisme pour tout le monde. Parce que, en plus, c'était un homme vraiment qui avait créé un journal, L'Indépendant, qui était super. Enfin, voilà. Donc j'avoue que moi, sur l'instant, j'ai cru à une mauvaise blague, je me suis pincée, j'ai dit non, c'est vrai, voilà, tout à fait, etc. Et ça a été quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, un an après, il y a eu une grande manifestation pour la commémoration, le 13 décembre 1999. Et là, j'y suis allée, je m'y trouvais d'ailleurs. Tous mes amis burkinabés savaient que tu reviendrais à ce moment-là. Et ça a été, il y a eu 500 000 personnes qui ont défilé à Ouagadougou, des vieux, des jeunes, enfin, toutes sortes de gens. C'était impressionnant. Voilà. Et donc, ça a été un événement qui a quand même beaucoup entaché l'ambiance et les relations avec le président de l'époque, Blaise Compaoré. Voilà, qui d'ailleurs depuis a été incriminé dans l'assassinat de Thomas Sankara. Hein, il y a eu un jugement officiel, international et tout. Voilà, qu'il a incriminé, il a été condamné, mais bon, maintenant il est en Côte d'Ivoire.
Mais il semble qu'il y a beaucoup d'événements qui se déroulent au Burkina.
Oui, oui. Et alors actuellement, n'en parlons pas.
Vous avez tous vécu.
Mmh. Ah ben oui, c'est extraordinaire parce qu'en plus, ce que j'ai vécu, Jérémy, c'est par exemple les événements de la Côte d'Ivoire aussi, où il y a eu quand même des coups d'État, etc. Et comme la ville de Bobo est proche, elle est proche de toutes les frontières, hein, Mali, etc. Et évidemment, Côte d'Ivoire, le train passe par là aussi, etc. Et c'était des événements qui touchaient énormément. Qui touchait énormément la vie aussi là-bas, la sécurité, etc. etc. Ben, c'est des choses, on ne pouvait pas y échapper parce que c'était vraiment assez terrible. C'était assez terrible. Donc voilà, il y a eu comme ça, j'ai connu plein de gens qui étaient mêlés à des histoires sans le chercher, hein, comme ça, par au hasard des rencontres, etc. etc. quoi. Voilà, donc,
Mais ce qui se passe au Burkina, ce que vous décrivez, est-ce que ce n'est pas... propre à tous ces pays qui, à peine sortis de l'indépendance, se cherchent leur identité, tout simplement.
Alors, oui, et c'est intéressant, Jérémy, parce que c'est vrai que je me pose beaucoup cette question, hein, parce que, voilà, bon, par rapport d'ailleurs aux événements qui se sont passés même en Europe, hein, concernant, moi j'étais hispanophone, j'étais anti-franquiste, etc. Et j'ai halluciné quand on a dit qu'il y avait un roi qui remplaçait Franco. Mais depuis, j'ai compris qu'en fait, le fait de revenir à un système plus ancien, plus traditionnel, ça a évité, parce que par exemple le Portugal n'a pas pu l'éviter par contre quand le dictateur est tombé, etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement dans des pays comme ça, si on veut aller trop vite et s'il n'y a pas suffisamment d'installation d'un régime, même s'il est insatisfaisant, mais que quand même il puisse continuer à asseoir les valeurs, etc., le pouvoir et tout, la sagesse quelque part aussi, je me suis rendu compte qu'effectivement ça ne peut pas le faire, quoi.
Parce que ce qu'on observe vu de loin ou de près, c'est que ces pays africains-là, la démocratie a du mal à véritablement s'implanter.
Tout à fait.
Mais alors, c'est pourquoi ça? Ils ont du mal avec la démocratie. Ce sont des sociétés traditionnelles où il y a un chef qui a une légitimité ancestrale, coutumière, ce qu'on veut. Alors qu'avec la démocratie, entre guillemets, chaque citoyen peut être un jour présidentiale. Et à mon avis, le problème vient de là, en fait.
Oui, mais c'est intéressant, Jérémy, parce que c'est aussi une question que je me pose. C'est marrant parce qu'on se voit souvent et on n'en a jamais parlé. Ouais. Effectivement, ce que d'ailleurs l'autre jour, il y avait un reportage, c'était un sage africain qui le disait. Je pense que le fait, enfin, on sait bien quand même que la colonisation, ça n'a pas fait du bien. On sait bien quand même qu'il y avait un pays qui n'avait pas vraiment de frontières, auquel on a donné des frontières complètement à la noix, sous prétexte qu'on dominait, qu'on voulait dominer, etc. Et on sait bien à un moment que la démocratie, qui a eu toute une histoire, par exemple en Occident, on part peut-être des Grecs, etc., etc. Et ben, elle a pas du tout de sens là-bas, et que quelque part, peut-être, il y avait une forme de démocratie traditionnelle autour des chefs coutumiers, des chefs, etc. Et que, en voulant copier un modèle, en fait, on rend les choses très difficiles, très compliquées, et du coup, à nouveau, il y a du brouillard qui se fait, et puis à un moment, il y a de l'embrouille, etc. Il y a des systèmes, parce qu'après la corruption, tout ça, c'est pas les Africains qui l'ont inventé, franchement, mais peut-être qu'à ce moment-là, ces systèmes-là, un peu, ces systèmes qui viennent vraiment saper les relations, saper les pouvoirs, saper les institutions, se mettent là parce que justement, on ne laisse pas les choses. On laisse pas les choses vraiment se faire un rythme naturel. Et moi, il me semble quand même que, il me semble quand même que là, ce serait à revoir. La démocratie en repartant de l'histoire de chaque pays. Par exemple, je parlais du Burkina, qui est quand même un pays relativement, quand on dit on intègre, etc., très accueillant, mais peut-être qu'il est accueillant parce qu'il y a une sécurité. Il y a quand même 62 ethnies, je crois, mais qui sont toutes organisées, qui étaient au départ toutes organisées autour de l'ethnie dominante, qui est quand même l'ethnie Mossi, mais qui en même temps permet une existence à toutes les ethnies, donc, et à tous les langages. Donc voilà, donc c'est vrai que il y a peut-être des choses à revoir là-dedans, et sauf que le mal a déjà été fait pas mal, quoi.
Donc, voilà. Marie-Claude, oui, effectivement...
C'est un sujet passionnant, d'ailleurs. Ce serait bien qu'on en reparle de ça.
Oui, on en reparlera. Moi, je pense que quand on observe dans ces pays-là les coups d'État dans différents endroits, certes, quand un coup d'État arrive, c'est un peu comme on pose un garrot quelque part.
Tout
ça,
à fait.
Ça ne marche pas.
Tout
ou,
à fait. Tout
ou quand
fait.
Le peuple s'exprime, c'est pas respecté. Eh bien, quel coup de force, en fait. À ce propos, il y avait Serge Kapuscinski, qui était représentant de l'agence TASS en Afrique. Il a vécu les soubresauts depuis Nkrumah et Lumumba et le Nigeria. Il a un très beau livre qu'il a écrit. Il explique qu'effectivement, l'armée est la seule institution où, au moins, l'ordre est respecté. Donc, quand les civils font un peu n'importe quoi, eh bien, l'armée rentre en scène, elle met tout le monde au pas. Voilà. Donc, malheureusement, les coups d'État servent à changer de direction. Brutal, des fois, il y a des morts. Mais bon, voilà
comment. Et à asseoir un pouvoir après militaire qui ne peut pas perdurer, qui doit être normalement
parce
une transition.
Si on veut, c'est. Les sociétés traditionnelles fonctionnaient relativement bien, elles avaient à la fois légitimité et autorité. Quand le coup d'État arrive, ils ne gèrent plus rien. Donc, effectivement, ce que vous décrivez au Burkina, ça se voit partout en Afrique.
Actuellement, oui.
Là, l'émission tire à sa fin. Il nous reste.
Une minute.
D'accord.
Alors, je voudrais simplement parler du 31 octobre 2014, qu'on vient de commémorer maintenant, dans le grand silence d'ailleurs, parce que vu les événements actuellement au Burkina, c'est pas glorieux non plus. On n'est pas dans un optimisme béat, et qui quand même a été précédé deux jours avant. Il y avait vraiment la constitution qui devait être revue pour permettre au chef de l'État de régner à vie, quoi, ce qu'on connaît un peu, alors que ça avait été cher payé justement. Notamment avec cet assassinat de Thomas Sankara. Et je dois dire, ce que je voulais saluer, ce qui m'a vraiment encouragée à ce moment-là, puisque je suivais les événements au jour le jour et à l'heure presque, c'est qu'à ce moment-là, c'est les femmes qui ont défilé avec les spatules. Et quand les femmes défilent le 28 ou le 29, et là, tout à coup, j'ai eu de l'espoir, j'ai dit, et quand les femmes défilent et quand elles décident, et ça, pour moi, c'est l'image de la femme africaine. Tout à coup, elle a le pouvoir économique, elle a le pouvoir nourricier, et là, voilà, elles ont réussi. Et donc, chapeau mes sœurs burkinabées, et puis vive le Burkina.
Alors, on finit l'émission avec le deuxième morceau.
Oui, alors le deuxième morceau qui s'appelle John Maya, donc c'est toujours Victor Démé, Bobolet, qui a d'ailleurs lancé sa carrière internationale, entre autres avec ce titre, qui est un très très beau titre qui parle du quotidien au Burkina.
Alors,
au revoir.
Au revoir en musique.
Et merci Jérémy.
Merci Marie-Claude d'être passée nous voir en tant qu'invité.
Baby, yellow, la lomino. Baby, kasi wolo nela.